E2A est en faillite en juin 98. Toute une kyrielle de repreneurs plus ou moins farfelus va se présenter. Ben malheureusement, ça ne pourra pas se faire. Il n'y aura pas de repreneurs sérieux. Ça doit être fin octobre 98. La faillite est transformée en liquidation.
Bonjour, autre radio, autre culture, également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons François Stamman. Bonjour François.
Bonjour Marion.
Alors nous en étions où?
Alors là, il y a des repreneurs plus sérieux qui se présentent, parce qu'en liquidation, c'est pas du tout le même prix pour reprendre qu'en faillite. C'est bien connu. Ouais. Et en plus, en liquidation, il y a des charges et des dettes qui ne sont pas à acquitter pour le repreneur. Et parmi les entreprises qui se présentent à ce moment-là, il y en a une qui est très particulière, qui s'appelle AETA, qui est basée à Clamart, qui a une bonne vingtaine d'années d'existence et qui a un parcours assez atypique. AETA est une société d'électronique industrielle qui a été créée donc elle aussi à la fin des années 70 et qui au fil du temps s'est acquis une spécialité de produits de télécommunication. Et puis au fil du temps aussi, à la fin des années 80, pardon, pas à la fin, mais à partir des années 90, son principal client, qui est France Télécom, va progressivement l'orienter, en lui fournissant un appui technique, technologique et je pense même financier, vers quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les petites boîtes noires de télécommunications, mais quelque chose qu'on appelle un codec. Et un codec, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet de faire passer dans un tout petit tuyau un très très gros débit. Mmh. Et tout cela en numérique. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin des lignes HQ, des lignes haute qualité, qu'utilisaient les lignes haute qualité avec 15 kHz de bande passante, qu'utilisaient toutes les stations de radio et de télévision à l'époque, quand il y avait des liaisons filaires et non pas des faisceaux hertziens, qu'on commence maintenant à utiliser le RNIS, qui se développe en France, justement sous l'impulsion de France Télécom. Mmh. Et donc cette activité est très intéressante, aussi bien pour AETA que pour France Télécom. Donc AETA va progressivement acquérir des connaissances exceptionnelles, il n'y a pas d'autre mot, en matière de traitement numérique du signal, parce que bien entendu tout cela est numérique, c'est du signal audio, là on ne parle pas encore de signal vidéo. Donc, traitement numérique du signal en matière d'algorithme, en matière déjà de conversion analogique numérique, en matière de compression du signal, en matière d'algorithme de compression, ça c'est à l'émission, et bien entendu à la réception, algorithme de décompression. Donc, un codec, c'est essentiellement un engin dans lequel on peut rentrer soit en analogique, soit déjà en numérique, et d'où ressort vers l'extérieur, vers un utilisateur, un flux numérique compressé, et le codec, dans l'autre sens, reçoit un flux numérique compressé et va restituer soit un flux numérique décompressé, en AES par exemple, soit un flux carrément des signaux analogiques. Donc AETA est extrêmement intéressé par le reprise E2A parce que, par contre, ils n'ont pratiquement aucun know-how en matière de traitement du signal analogique, en particulier ce que l'on appelle les étages frontaux, les étages d'acquisition, c'est-à-dire petits signaux, ce qui sort d'un micro, donc entre ce qui se passe entre la sortie du microphone et ce qui rentre dans le convertisseur analogique numérique. Mmh. Entre les deux, pour eux, c'est terra incognita, donc ils sont très intéressés, entre autres par ma reprise. Donc je vais accepter, et ça va se faire. AETA va reprendre 2A, officiellement en janvier 99, et moi je rejoins donc le laboratoire de AETA Audio, j'ai oublié d'en parler, le 28 décembre 98. Voilà. Alors, entre-temps, afin d'affermir l'activité codec d'AETA, en 1995, AETA a créé une filiale AETA, c'est une holding, finalement, et il y a une filiale qui s'appelle AETA Audio, qui, justement, s'occupe des codecs. Donc, désormais, AETA Audio va réunir des compétences en analogique et en numérique. Donc, c'est une excellente affaire pour eux.
Tout à fait, oui.
Et moi, j'ai retrouvé un emploi à 55 ans.
C'est inespéré.
Ce qui est à peu près inespéré. Ouais. Surtout dans ce domaine de l'audio professionnel, tout à fait, où oui. Les places sont très chères. Alors donc chez AETA, on va commencer par faire le tri de ce qui a été récupéré chez E2A. E2A avait donc des petites consoles, les Quest. Enfin, petites consoles, il y avait des 4 voix, des 6 voix, des 8 voix, des 12 voix. Donc toute une gamme pseudo-modulaire. C'est-à-dire qu'on dupliquait des tranches, mais sous une platine commune. Quand une tranche était en panne, on ne pouvait pas sortir une tranche comme sur une vraie console modulaire. Il fallait démonter les boutons, démonter les écrous des potentiomètres pour sortir l'électronique par en dessous. Par contre, c'était pas cher, c'était robuste et le son n'était pas mauvais du tout. Première activité. Deuxième activité, les consoles Endicott. Alors là, c'est beaucoup plus ennuyeux pour AETA parce qu'avant la fermeture, il y a le GRM de l'INA qui a passé commande d'une console pour compléter celle qu'ils ont déjà à la maison de la radio. Alors cette console, la fabrication a été commencée chez E2A, elle sera finie et livrée par AETA.
D'accord, oui.
Avec, entre autres, ce que l'on aura pu récupérer comme tranches plus ou moins complètes et composants divers dans le magasin d'E2A à Nozay. La troisième activité, donc, ce sont des enceintes acoustiques actives. Mais par contre, la spécificité de cette enceinte acoustique à deux voix, donc un boomer et un tweeter, c'est qu'il n'y a pas un filtrage actif et deux amplificateurs, il y a un amplificateur commun et un filtrage passif. Mais ça marche très bien, et surtout il y a une astuce géniale. Plus on monte en puissance, et moins on passe de basse fréquence. Ce qui fait qu'on peut monter en niveau sonore au niveau de l'enceinte, en sacrifiant le niveau d'émission émis par le boomer, qui n'est qu'un petit 10 cm, qui fait ce qu'il peut, mais qui est quand même assez exceptionnel et spectaculaire. Mais par contre, le haut-parleur de 10 cm est protégé contre des fréquences basses avec une amplitude énorme qu'il n'aurait certainement pas supporté sur une enceinte normale. Donc ça s'appelle DCM, Dynamic Controlled Monitor. Je pense que c'est un produit dont l'étude a dû être commune avec Christian Hale, qui a une très très grande réputation dans le domaine, entre autres, des enceintes acoustiques professionnelles. Je récapitule, les petits régies légères Quest, régies lourdes Endicott, les enceintes acoustiques DCM, DCM3 et DCM4, sur lesquelles j'avais commencé à travailler d'ailleurs à Nozay, pour sortir une nouvelle génération, hélas, sans lendemain. Ensuite, il y a des amplis de puissance, il y a un ampli de 100 watts, qui s'appelle le Square 100, une version stéréo, et un ampli dont je n'ai jamais su la puissance exactement, mais je pense qu'il devait peut-être être capable de sortir 1 kW sur un court-circuit ou presque, qui s'appelle le Square 1000, qui est un amplificateur d'une musicalité et d'une fidélité extraordinaire, mais dont la mise au point est tout aussi périlleuse, parce qu'il est truffé de sécurité qui se mordent la queue les unes les autres, ce qui fait que quand il y a un voyant rouge qui s'allume, pour savoir ce qui se passe, il faut être patient. Bien, c'est toutes sortes de sécurité. Mais 20 ans après ou 15 ans après, c'est un amplificateur qui est extrêmement recherché par les studios pour alimenter leurs enceintes passives. Une musicalité phénoménale. Ça, c'est les amplificateurs. Ensuite, il y a le PSP3, dont j'ai commencé l'étude et dont on a quand même livré 20 exemplaires avant que les carottes soient cuites chez E2A. Et il y en a quand même 10 aux États-Unis. Je vais revenir sur ce PSP3. On m'a imposé, pour un problème de coût, de réutiliser la même conversion d'énergie que sur le PSP2. Avec un seul problème, c'est que le PSP3 consomme deux fois plus et que la conversion d'énergie n'est pas dimensionnée en conséquence.
Ouais, d'accord.
Le résultat des courses, c'est que les 20 machines qui auront été livrées avant juin 1998 reviendront toutes en réparation chez AETA. Donc ça, c'était le PSP3. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est développer une conversion d'énergie pour le PSP3 suffisamment fiable et suffisamment dimensionné pour éventuellement servir à autre chose. Et cette autre chose, ça sera la mixette qui va succéder, le mélangeur donc qui va succéder à la Micromix et qui va s'appeler Mix 2000 et qui est construite sur le cahier des charges, sur les bases du cahier des charges commun à TF1 et à France Télévisions. Avec quand même un gag, c'est que entre le moment où on a défini le cahier des charges et le moment où on pourra présenter une maquette fonctionnelle, un prototype fonctionnel de la mixette, TF1 aura fait l'acquisition de je ne sais combien, peut-être 50 ou 80 FP33 Shure. Donc ils n'ont plus besoin de nouvelles mixettes.
Ils n'ont plus besoin de ça, oui.
Un dernier point aussi, fin 97, TF1 a dû commander 40 ou 50 micromix spécifiques TF1. Parce qu'il faut savoir que TF1 fait son service après-vente et son service de dépannage tout seul, tout simplement en cannibalisant le matériel au fur et à mesure. Il n'achète jamais de pièces détachées, il cannibalise une machine, ou des machines. Donc TF1 a 40 micromix dernière mouture, toute neuve, et probablement autant de FP33 Shure. Ils ne commanderont jamais de Mix 2000.
D'accord.
Or, la Mix 2000, il y a au moins un tiers du cahier des charges qui était redevable aux besoins spécifiques de TF1, entre autres le Honor. Alors, toujours est-il que j'entreprends maintenant, avec un collègue informaticien, la réalisation d'un prototype de cette nouvelle, de ce nouveau mélangeur qu'on a baptisé Mix 2000, parce qu'on est en 99.
Oui.
On sortira le prototype mécanique, hein, un petit peu comme fait ce que Sonosax maintenant dans les différents salons. Donc une boîte avec des boutons, et mais rien dedans, juste pour présenter. On la présentera à l'AES, je pense que c'est l'AES de Munich, en mai 99. Donc quand même pratiquement en 5 mois. Mm-hmm. On a présenté un prototype mécanique. En rentrant de vacances 99, en fin septembre, on a une maquette qui fonctionne, mais elle a un seul défaut avec la source d'alimentation qu'on a prévue pour cette mixette, c'est-à-dire 8 piles R6, on a 1h30 d'autonomie. C'était de qui la chanson? J'ai dû me tromper quelque part.
C'était quelle?
Vertige de l'amour.
Vertige de l'amour. Moi, c'est Bachoun.
Bachoun, voilà. Oui. Il y a une phrase, il y a une parole dedans, j'ai dû me tromper quelque part, je crois. Bon, enfin bref, donc, alors le problème, c'est que c'est le principe même qui est assez révolutionnaire sur cette machine qui nous pénalise en consommation. On n'a plus de vue-mètre à aiguille comme sur pratiquement tous les produits concurrents. Comme tous les produits concurrents ont tous des vue-mètres ou des pic-mètres à aiguille, pic-mètre Nord, Norman, BBC ou tout ce que l'on veut, ou des vue-mètres. On a un affichage à diode électroluminescente avec une très très grande échelle en plus parce qu'on a choisi d'avoir une échelle de au moins 48 dB, moins 40 plus 8. Alors que le vue-mètre, c'est moins 20 plus 3, et le pic-mètre ou le module mètre Nagra, les bonjours, c'est moins 30 plus 6. Alors pourquoi moins 40? Parce que assez souvent, le preneur de son entend quelque chose au casque, un grésillement, un bruit parasite, une cochonnerie quoi. Mais l'aiguille du vue-mètre, elle n'a pas bougé. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Donc on s'est dit, autant quand même qu'il y ait un espèce d'avertisseur qui signale qu'il y a un signal très très faible, mais qu'il y a quelque chose. Bon, mais j'ai fait la bêtise de vouloir faire un affichage à partir de composants analogiques pour détecter, mesurer les signaux pour l'affichage. Et puis je me suis complètement trompé et ça consomme 3 fois plus que le reste. Donc, on va refondre complètement, avec mon collègue informaticien, la partie gestion d'affichage de la Mix 2000. Et en fin d'année, fin 99, on peut présenter un prototype totalement fonctionnel et avec une consommation correcte à France Télévisions, puisque TF1, c'est plus la peine. Ils vont nous commander 40 machines, donc c'est une commande merveilleuse, parce qu'à cette époque-là, France Télévisions, France 2 et France 3 sont en plein renouvellement de matériel, comme ils sont actuellement d'ailleurs comme en 2008.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui.
Puisqu'ils vont passer à la TV haute définition et au son stéréo, voire multicanal. Donc ils sont en plein renouvellement de matériel et que la concurrence est rude et sévère. Il y a beaucoup de monde sur les rangs. Ils connaissent, mais ils n'en veulent plus, la Micromix. Ils connaissent la SQN, qui n'est pas terrible au point de vue son, mais qui bénéficie d'une ergonomie extraordinaire à cause de la forme de ses boutons. Ils connaissent une machine, j'ai jamais compris si elle est suédoise ou suisse, qui s'appelle la Mystère, qui ressemble à un carton à chaussures, qui marche bien mais qui est très lourde et qui n'a pas d'autonomie. Et nous, on arrive avec une machine qui est beaucoup plus petite, qui est moins lourde, qui a de meilleures performances audio et qui a un affichage avec une plus grande échelle et qui enfin a 8 heures d'autonomie. On peut remercier France 2 qui a accepté de retarder pratiquement de 4 mois sa décision de renouvellement de matériel pour pouvoir disposer du prototype fonctionnel de Mix 2000 fin 99. On va livrer donc ces 40 machines entre janvier et avril 2000. C'est un premier lot. Et ensuite viendront d'autres commandes de France 3, France 3 Région, etc. etc. Alors, la Mix 2000, sa particularité, c'est qu'elle utilise, du moins pour les premières, exactement les mêmes transformateurs d'entrée que la Micromix, conçue 20 ans auparavant. Alors, ce sont des transfos d'origine allemande, de marque Haufe. Ces transformateurs sont extraordinaires, c'est eux qui ont fait le son de la Micromix, le timbre. Mais par contre, derrière, il n'y a plus rien de commun. Donc c'est une électronique toute neuve, qui utilise des composants complètement différents, et qui, par rapport à la Micromix, présente deux particularités. Elle a été conçue dès le départ pour recevoir un module de conversion analogique numérique et mise en forme et étage de sortie pour sortie en numérique, en AES ou en SPDIF, ce qui n'existe sur aucun matériel portable à l'époque. C'est un premier point. Et d'autre part, elle se caractérise par une admissibilité, c'est-à-dire une réserve avant saturation sur les étages d'entrée, phénoménale. Mm-hmm. On a pratiquement 47 ou 48 dB. Alors évidemment, la Micromix qui faisait 26 dB, TF1 demandait à avoir les trims de sensibilité d'entrée en face avant. Les observations qui nous seront faites au début, « Ah oui, mais c'est dommage que vous n'ayez pas remis les trims de sensibilité d'entrée de la Mix 2000 en face avant », ça va très rapidement disparaître, les gens savent ce qu'ils ont comme micro, et à quoi ils risquent de faire face, en termes de pression acoustique ou de niveau sonore. Un dynamique, c'est 5 crans, un Shops, un Colette, c'est 2 crans, un KM84, c'est 1 cran, etc., etc., et pratiquement, on ne joue plus que sur les faders de niveau de voix, grâce à l'admissibilité. L'autre particularité aussi de la Mix 2000, c'est que pour la première fois sur un matériel portable, on va utiliser un VCA comme master et comme élément pour faire un compresseur limiteur. Et en plus, donc, contrairement au limiteur qui équipait la Micromix, par exemple, qui est un limiteur qui essaye de réguler un niveau de sortie, donc ce qu'on appelle un système bouclé. Cette fois-ci, on va détecter le signal à l'entrée de l'étage de master. Et par exemple, si ce signal double, on va venir piloter le VCA pour que son gain soit divisé par deux, donc pour maintenir constant le niveau de sortie. Donc ce n'est pas un système rebouclé, c'est un système piloté. Et l'avantage, c'est que ça ne pompe pas et ça ne respire pas, contrairement à la majorité des compresseurs limiteurs qui, à cette époque-là, équipaient les consoles de prise de son. Donc, le matériel livré à France Télévisions, vu les Betacam, enfin pardon, les caméscopes professionnels dont ils disposent à l'époque, Betacam SP de chez Sony, les SX viendront plus tard, ne sont pas équipés, ces Betacam, ces caméscopes, ne sont pas équipés d'entrée numérique. Donc les mélangeurs livrés, les Mix 2000 livrés, ne sortiront qu'en analogique. Par contre, pour d'autres clients qui utiliseront par la suite soit des enregistreurs DAT numériques synchronisés avec les caméras, soit des caméscopes à entrée numérique qui commencent à apparaître, eux seront livrés avec des sorties numériques. Je crois que c'est ce qu'on a livré à la RTBF en Belgique, par exemple. En 2004... il se produit un événement très désagréable pour AETA. Le feu se déclare dans le parking qui est situé sous l'usine, à Clamart. Et le feu se communique aux étages supérieurs. 40 voitures de mes collègues et collaborateurs disparaissent dans l'incendie. Mais surtout, tous les laboratoires et tout le stock magasin d'AETA disparaissent dans les flammes. On va déménager à la cloche de bois un peu plus loin, dans la zone industrielle du Plessis-Robinson. Et comme là, ça va très très mal, on est racheté par un de nos principaux clients en Allemagne, qui est une société spécialisée dans les télécommunications satellitaires Paris-Marsat qui s'appelle Transtel et qui est donc notre distributeur en Allemagne et qui fournit la Norddeutsche Rundfunk, la Westdeutsche Rundfunk, la Süddeutsche Rundfunk, etc. Donc Transtel rachète à ETA, mais lui laisse toute autonomie. Personne ne sera licencié. Par contre, à ETA Audio, à partir de 92, a différencié ses activités. C'est-à-dire il y a la holding à ETA, il y a la division à ETA Audio, qui elle-même va se séparer en deux à partir de 91-92. Les activités télécommunications qui se poursuivent, composantes télécommunications, deviendra AETA Com, AETA Télécom, et les activités purement audio restent AETA Audio. Après rachat par Transtel, c'est rebaptisé AETA Audio Systems. L'incendie a eu lieu le 15 juin 2004, les activités reprennent après le déménagement en septembre 2004. Nous reprenons la fabrication des PSP3 et des Mix 2000. Un petit aparté, la conversion d'énergie que j'avais développée pour le PSP3 avait été suffisamment dimensionnée pour qu'elle puisse faire affaire aussi sur le Mix 2000. Le composant est commun, il est identique. Une particularité aussi, sur la Micromix, la conversion d'énergie, fin des années 70, fonctionne à 50 kHz. C'est pas très gênant en audio, mais à partir du moment où on rentre sur certains enregistreurs numériques, il y a tellement de reliquats de la fréquence de découpage proche de 48 kHz, que parfois, avec certaines conversions analogiques numériques, on entend ce que l'on appelle des chants d'oiseaux ou des igouigouis. Ben oui, 50, c'est pas très loin de 48, ouais. Ou de 44.1. Mm-hmm. Et les battements entre les deux sont encore dans la bande audible. Et le PSP2, lui, travaille entre 95 et 100 kHz, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du double de 44.1 ou de 48 kHz. Et le PSP2, avec certains DAT, faisait lui aussi des petits chants d'oiseaux. C'est pour ça que quand j'ai conçu la conversion d'énergie pour le PSP3 reprise pour la Mix 2000, on est carrément passé à 500 kHz. Cette fois-ci, on est complètement en dehors des fréquences d'échantillonnage et de numérisation. Ce sont des points de détail, mais importants. Alors, donc, on va reprendre. On a de nouvelles commandes dont on est bien content parce que ça permet de repartir avec Transtel. On a une nouvelle commande de France Télévisions en 2004, fin 2004, début 2005. Et puis là, il y a une catastrophe qui survient, qui est une norme internationale. C'est une norme anti-pollution pour interdire l'utilisation du plomb dans l'industrie, plomb, alliage et dérivés, en particulier la soudure. Et ça s'appelle la norme sans plomb, ROHS. Cette norme ne s'applique que sur les nouveaux produits neufs à commercialiser, mais ne s'applique absolument pas quand il s'agit de dépanner ou d'entretenir un matériel ancien. Ouf.
Ça, je ne savais pas.
Par contre, le résultat des courses, c'est que, aussi bien dans la conversion d'énergie, comme une au PSP3 et à Mix 2000, que dans les circuits électroniques de Mix 2000, il y a des composants qui n'existent pas en conformité totale avec cette norme. Donc on ne peut plus ni fabriquer ni commercialiser PSP3 et Mix 2000.
D'accord. Bon.
Donc, on est réellement désolé, mais on est obligé d'arrêter. Alors, ça va poser un problème, parce que avant, il y avait quand même une double activité, les codecs d'un côté, et les produits portables audio, donc ce qu'on appelle ENG et EFP, News Gathering et Field Production, hein, avec donc préampli et mixette, mais s'il n'y a plus de préampli et de mixette, il ne reste plus que les codecs. Donc, il va falloir créer une nouvelle génération de matériel, mais cette fois-ci, bien entendu, en conformité totale avec la norme ROHS. Et on va définir un produit qui, dès le départ, sera dédié aux enregistreurs numériques et à l'enregistrement en numérique. Donc il aura bien entendu des sorties analogiques, mais il sera muni de sorties numériques et optiques de façon à pouvoir attaquer, comme enregistreur, aussi bien un DAT qu'un mini-disque, qu'un enregistreur sur carte flash, qu'un enregistreur portable sur disque dur, Sound Device série 700, ou Minir Sonosax, ou HIMD, ou mini-disque de Sony, ou de Sanyo, ou de Kenwood, etc. On va reprendre dans l'esprit les préamplis du PSP3 qui sont sans transformateur d'entrée. Mais c'est ce qui permet aussi de tirer les prix parce que les 4 transformateurs d'entrée d'une NX 2000 en 98 représentaient plus de 3000 francs de prix d'achat matière. C'est-à-dire une part non négligeable des composants. Pratiquement, c'était les composants les plus chers. Voilà. Donc on va reprendre l'esprit des préamplis de la PSP3, mais on ne va pas sortir une 4 voies tout de suite. Parce que l'étude de marché fait apparaître qu'il y a besoin d'une mixette plus légère qu'une 4 voies, mais qui permette de travailler aussi bien qu'en stéréo qu'en MS. C'est-à-dire un couple stéréo ou un couple MS, et une perche ou un micro d'appoint ou une cravate ou un HF. Donc on va définir une mixette 3 voies qui possède une conversion analogique numérique, qui est capable de fonctionner, contrairement à MX 2000, aussi bien en 44.1 et 48 qu'en 96 kg, qui possède une très grande autonomie, donc on laisse tomber les piles, et on va mettre une batterie à l'intérieur, et surtout on va rentrer le chargeur de batterie à l'intérieur. Donc cette mixette, dès qu'elle va avoir une source externe d'énergie, ça va recharger la batterie. Donc on va pratiquement mettre un an, une année avec mon collègue informaticien à définir et fabriquer les prototypes de ce qui s'appelle aujourd'hui Mixi. Donc on va présenter Mixi au Satis, le prototype, en novembre 2006. On va faire une présentation pour les membres, les chers preneurs de son de Perchman.com dans le studio de Philippe Labroux, je crois, en février 2007. Et on va commencer donc les livraisons. Donc à ce moment-là, donc en février 2007, c'est encore le prototype qu'on va présenter. Mais entre-temps, il y a eu une refonte complète du produit, un redesign au point de vue esthétique, pas tellement au point de vue fonctionnel. Et le produit de série commencera sa commercialisation en avril-mai 2007.
Elle est commercialisée actuellement ?
Oui.
D'accord.
Donc, actuellement, on a dû livrer à peu près 150 machines.
Et quelle est la, je veux dire, quelles sont les critiques actuelles de cette machine ? Vous en avez...
Alors, il y a eu une critique initiale. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe quand la batterie à l'intérieur, elle est vide ? Alors, la première des choses, c'est qu'il y a une prise qui permet d'alimenter depuis l'extérieur, à partir d'une NP1, ou une prise d'allume-cigare ou une allume-secteur. Il y a quand même pas mal de preneurs de son qui utilisent ce qu'on appelle l'araignée VDB pour distribuer l'énergie un peu partout, aussi bien à l'enregistreur qu'au HF, etc., etc. C'est un premier point. Et le deuxième point, donc, c'est qu'il est parfaitement possible d'utiliser un simple bac qui contient 6 piles R6, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans le PSP2 et dans le PSP3, et de mettre au bout une fiche Heroes, et avec 6 piles R6 en allume externe pour Mixi, on va avoir pratiquement 6 heures d'autonomie supplémentaire avec une paire de microstatiques alimentées.
Bon. Ouais, bah...
Si à la place des 6 piles, on met 6 accus nickel métal hydrure, on va récupérer 7-8 heures. Et le problème de l'autonomie qui nous avait été posé au début, il est apparu. Alors, on avait été à la fois optimiste et pessimiste. Quand on a sorti la première fiche de spécification technique, on a dit plus de 10 heures d'autonomie. Alors, évidemment, il y a certains microstatiques qui sont inutilisables en extérieur, comme certains micro-américains qui consomment le maximum de ce que la norme autorise, c'est-à-dire 10 mA en 48 volts, 1,5 watt par micro. Bon, là, il ne faut pas rêver. Ça fait 1,5 watt, c'est-à-dire que ça va doubler la consommation et diviser par deux l'autonomie. Mais il y a des microstatiques qui consomment très peu. Et puis, mon Dieu, il reste aussi pour l'interview des micro-dynamiques. Les DO21, DO20, MD421, MD21, voire M130 ou M160, ça sert aussi en extérieur pour faire de l'interview. Et ça, l'avantage, c'est que c'est robuste et que ça consomme rien. Donc avec des microdynamiques, on tient actuellement plus de 15 heures.
Cette Mixi, elle a pour utilisation essentiellement des interviews, des reportages, des
documentaires. Alors actuellement, ça serait plutôt les news.
Les news, oui.
Mais comme on a essayé d'avoir une qualité, en particulier au niveau des préamplis, qui est quand même ce qui fait la réputation d'AETA, et ce qui a fait la réputation de 2A aussi, on a essayé au niveau des préamplis, des limiteurs et de la conversion analogique numérique, d'avoir des performances de très haut niveau qui soient compatibles aussi avec une consommation réduite, donc une autonomie correcte. Parce qu'on sait faire des choses merveilleuses, rien que sur une conversion analogique numérique. On sait gagner 10 dB de mieux sur tous les paramètres, mais au lieu de consommer 100 mW, on va consommer 3 watts. Donc à chaque fois, ce sont toujours des compromis entre performance et consommation. On a essayé avec mon collègue d'optimiser toutes ces choses-là. Elle est considérée comme étant quand même très musicale. Elle est très neutre. Ça peut paraître parfois sec avec certains types de micros. Mais il n'y a pas que des utilisations en news. Hein. Bien sûr, à France Télévisions, France 2 ou France 3, c'est plutôt du news pour l'instant que du documentaire. Enfin, on commence maintenant à voir des mixis utilisés pour les documentaires. Elle a l'avantage d'être petite, d'être légère et d'avoir cette grande autonomie et de belles performances.
Est-ce qu'elle aura cette réputation qu'avait par exemple 2A de faire des machines inusables ?
Alors, déjà la Mix 2000, par exemple, on voit qu'on s'est trouvé coincé par une norme qui interdit de poursuivre sa fabrication. On ne trouve pas les composants ROHS, certains types de composants. Bon. Une micro-mix conçue à la fin des années 70 était entièrement réalisée à partir de composants discrets, résistance, condensateur, diode, de quelques circuits intégrés qui existent toujours, en boîtier conventionnel, en dual inline, en 10-8 en plus, certains sur support, pour faciliter les interventions, le SAV, dont l'ampli casque, non protégé. Donc elle est toujours facile à entretenir, elle. On aurait pu continuer à la fabriquer. Mais disons que les composants qu'il y a dedans existent maintenant en ROHS. À partir du moment où on rentre du numérique maintenant dans l'audio, la durée de vie d'un composant en numérique maintenant... Pour des maisons sérieuses, par exemple, nous utilisons comme convertisseur analogique numérique sur Mix 2000 et le codec de Mixi, donc convertisseur analogique numérique et convertisseur numérique analogique, on utilise des composants de chez Cristal, des composants américains. Cristal est une exception, un peu comme Linear Technology pour les autres semi-conducteurs. Chez eux, ils nous garantissent au moins 5 ans de durée de vie. Actuellement, les composants numériques... Je dirais 6 mois de durée de vie. Et au bout de 6 mois, il y a une nouvelle génération. Et comme par hasard, elle n'est pas compatible avec l'ancienne.
Mais je vois que c'est le même problème qu'on retrouve en informatique actuellement.
Exactement le problème qu'on a en informatique actuellement. Le nouveau matériel n'est pas compatible avec l'ancien, d'une part. Donc on est obligé systématiquement, quand on lance la fabrication de ce genre de produit qui intègre du numérique, de faire des stocks stratégiques des composants critiques. Ça coûte cher.
Oui, exactement.
Ce qu'il y a dans un magasin, ça coûte une fortune à une entreprise. Mais on ne peut pas faire autrement. En plus, les normes changent d'année en année. Il y a encore quelques années, avoir du 32 kHz, du 44.1 et du 48 kHz. 32 kHz, c'était pour les 15 kHz de bande passante pour le broadcast, hein, qui était limité à 15 kHz de bande passante. Bon, ça suffisait largement. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pratiquement tous les CD ont été réalisés avec au moins... Les trois quarts du travail réalisé en 48 kHz. Maintenant, c'est du 96, du 192, du 384, du 768 kHz en 32 bits. C'est une usine à gaz. Avant, avec 1 gigabit de mémoire, on pouvait archiver plus d'une heure en 24 bits et en 48 kHz. Les dernières folies américaines en matière de son numérique nous ramènent cette heure à quelques minutes. Alors on me répondra, oui, mais avant, 1 gigabit de mémoire, ça coûtait cher. Maintenant, pour le même prix, on en a 32 ou 64. Oui, mais enfin, s'il faut 1 terabit pour avoir une demi-heure, donc 1000 gigas pour avoir une demi-heure de musique, il faut quand même savoir rester raisonnable. Voilà. Donc c'est un peu le problème actuellement. C'est pour ça que l'intervention du numérique dans Mixi a été essentiellement limitée à la conversion analogique numérique à une conversion numérique analogique, c'est-à-dire qu'on rentre en numérique sur Mixi et on ressort en analogique. Donc c'est un convertisseur digital analogique de très haute qualité. On a une compatibilité complète avec de l'USB, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec Mixi couplé à un ordinateur portable. On est reconnu comme un codec, bêtement, comme un codec audio. On peut remélanger le son numérique qui vient en USB depuis le portable avec le son analogique qui rentre sur les micros ou sur les entrées lignes de Mixi. Le produit du mélange, qui sort donc en SPDIF, AES ou Toslink, ressort aussi en USB vers l'ordinateur, qui peut l'enregistrer. Donc s'il y a un enregistreur capable d'enregistrer à partir d'une source en USB, ben, c'est parfait. Mais attention, Mixi n'est pas maître, Mixi n'est qu'esclave en USB. Mixi, vous rentrez en USB, vous ressortez en SPDIF et en Toslink. Mixi, vous rentrez en SPDIF, vous ressortez en USB. Donc c'est une carte son qui fait énormément de choses. Elle est limitée dans sa définition. Mais c'est le début d'une famille. À suivre.
À suivre. Vous êtes content de votre bébé, alors. Fier de votre bébé.
En quelque sorte. La boucle est bouclée.
Et qu'est-ce que vous rêvez actuellement? Vous rêvez à quelque chose en ce moment?
Disons que la nuit, je dors et que j'ai les heures de jour pour rêver.
Bien, merci beaucoup François d'être venu. Moi j'ai beaucoup apprécié ce parcours, ce long parcours avec toutes ces...
Il est un peu atypique parce qu'il s'étale sur plus de 40 années, mais curieusement il est pratiquement fractionné en deux durées équivalentes, 20 ans dans l'audio, 20 ans dans la vidéo.
Belle réussite professionnelle.
Je n'ai pas créé mon entreprise, c'est peut-être mon seul regret.
Bien, merci. Merci beaucoup, puis j'espère à bientôt.
Bonsoir.
Bonsoir François. Ici Autre Radio, Autre Culture. Eh bien, j'espère que vous avez beaucoup apprécié et je vous dis à bientôt. Au revoir. Autre Radio, Autre Culture.